Ce n'est un secret pour personne, la gourmandise est sacrée pour moi. Alors quand Koro m'a proposé de devenir partenaire de ce podcast, j'étais plus que ravie. Si vous ne connaissez pas encore Koro, ce sont les pionniers de l'alimentation saine et durable, et vous pouvez trouver sur leur site aussi bien des super aliments, des snacks ou encore les meilleures purées d'oléagineux que j'ai la chance de goûter, mention spéciale pour la purée de cacahuètes crunchy. Et ce qui est particulièrement cool dans la démarche de Koro, c'est qu'au-delà de proposer une très large gamme de produits naturels, dont la majorité sont vegan et bio, leurs engagements se traduisent aussi dans la façon dont ils ont imaginé la marque. Ils proposent d'acheter en gros, dans des grands emballages pratiques et minimalistes, ce qui permet de vous proposer les prix les plus justes possibles. Autant vous dire que j'ai fait la razzia au bureau, on est venu remplir le bar à céréales avec les crispies au chocolat et le granola crunchy. Et ce qui est génial, c'est que quel que soit votre régime alimentaire, vous pourrez trouver votre bonheur. Et pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, on vous offre avec Koro moins 5% de remise sur votre prochaine commande Koro avec le code INPOWER, INPOWER, pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.koro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur INPOWER, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille Alice Elim, joueuse de tennis professionnelle mais aussi autrice, présentatrice et actrice. Je suis très heureuse de recevoir Alice pour plusieurs raisons, déjà parce que le tennis féminin n'a pas la visibilité qu'il mérite en France quand on connaît l'influence du tennis masculin, mais aussi parce que la vie des athlètes est toujours riche de leçons et d'enseignements qui peuvent s'appliquer pour chacun d'entre nous au quotidien. Dans cet épisode, Alice nous partage ce qui l'a poussée à se consacrer au tennis de haut niveau, après avoir suivi des études à la Sorbonne. Elle nous partage également les épreuves physiques et mentales qu'elle a dû affronter, et comment elle les a surmontées, notamment les troubles alimentaires, du fait de la stricte discipline imposée aux athlètes féminines. Alice se livre aussi sur son diagnostic d'HPI, haut potentiel intellectuel, et l'hypersensibilité qui l'accompagne, et comment elle fait pour ne pas se laisser submerger au quotidien. Je remercie vraiment Alice pour son authenticité et sa transparence, j'avais vraiment l'impression de discuter avec une amie, et j'espère que vous aurez le même sentiment. Si c'est la première fois que vous écoutez INPOWER, bienvenue! Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré, et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Alice Elim. Bonjour Alice.
Bonjour Louise.
Bienvenue sur INPOWER. Merci d'avoir fait un petit tour dans ton emploi du temps pour venir, parce que ça fait longtemps que je souhaitais te recevoir sur le podcast.
Merci de me recevoir.
J'ai hâte d'échanger avec toi. Je crois que tu es la première sportive de haut niveau. Non, j'ai reçu une surfeuse pro. En tout cas, tu es la première tennis woman que je reçois. Ou en tout cas, ancienne sportive de haut niveau. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites?
C'est un exercice difficile pour moi.
Je sais, mais tu vois là, comme oui. C'est un podcast, tu peux y aller dans la longueur,
oui.
Ce que tu veux.
Je m'appelle Alice Elim, j'ai 31 ans, j'hésite entre je suis ou j'étais joueuse de tennis professionnelle parce que je joue encore mais je ne joue plus à temps plein le circuit professionnel comme avant, et j'ai par ailleurs d'autres activités, on va dire journalistiques, enfin ouais. Plutôt de présentation à la télé pour des émissions soit de sport, accès tennis bien sûr, et j'ai une émission de musique à côté avec France Télévisions.
Trop cool.
Voilà. Le principal est là.
Le principal est là. Donc, de toute façon, on va rentrer dans le détail au cours du podcast. Déjà, j'ai vu que tu avais commencé le tennis, ou en tout cas, je ne sais pas si c'était le tennis ou ta carrière pro, mais à 20 ans, et que tu avais fait des études avant à la Sorbonne. Et c'est vrai que c'est un parcours atypique dans le sport de haut niveau. On entend beaucoup, faut commencer à 8 ans, à 9 ans, ou même avant. Et voilà, et c'est un peu un parcours que tu suis enfant, et après, le dilemme, tu dois faire face à un dilemme entre continuer ou arrêter sur une voie plus classique. Qu'est-ce qui a fait que toi, t'as commencé si tard, et comment est-ce que tu te voyais avant cette décision, quoi?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que je viens d'une famille qui est à très axée études. Voilà, le tennis ne fait pas partie de notre vie, à part... C'est un loisir. Le tennis, ouais. C'est un loisir. J'ai pas des parents entraîneurs ou anciens pros de sport, donc en fait, il était logique de suivre la voie classique, comme mes grands frères et sœurs, d'aller à l'école. Ensuite, on m'a inscrite à un tournoi. Quand j'étais petite, j'ai commencé à gagner. J'ai été repérée par la Ligue, donc c'est, on va dire, le comité départemental ou régional, on va se formuler comme ça. Donc t'es repérée et tu commences à rentrer dans un espèce de moule de jeunes enfants qui sont envoyés par la Ligue pour aller jouer les tournois nationaux et donc être entraînés à un niveau national. Mmh. Et à ce moment-là, on te propose d'aller soit en d'aller en sport-études ou de faire le CNED, ce que faisaient la plupart de mes consoeurs et confrères qui jouaient au tennis à partir du collège à peu près. Pour moi, c'était impensable parce que c'était juste pas la... J'avais pas envie, déjà. J'avais envie de faire comme mes frères et sœurs et j'avais envie de garder la vie normale, entre guillemets, d'une fille qui ne jouait pas au tennis. Et donc, j'ai continué ça jusqu'au lycée. Et le problème, c'est que j'ai quand même réussi à raccrocher au wagon des meilleures françaises de cette manière-là, donc en jouant peu, en entraînant peu. Donc j'étais, on va dire que c'est pas comme si j'avais débarqué du jour au lendemain à 20 ans, ah, je vais faire du tennis. Ouais. Non, j'ai commencé jeune, je me suis entraînée, j'ai fait des tournois internationaux aussi, mais j'en faisais beaucoup moins. Voilà, et en bidouillant comme ça, je m'en sortais. Mmh. Arrivé le bac, tu te dis, bon, bah, maintenant j'ai plus le choix, qu'est-ce que je fais? Je dois faire des études parce que tu te retrouves au lycée et tout le monde s'inscrit sur. À l'époque, c'était pas Parcoursup, c'était Ravel.
Ah non, toi, c'était
Ravel.
Ah, je connaissais pas.
Tu changes tous les 10 ans. Oui, c'est ça, il fallait s'inscrire. Et là, tu fais comme les autres, tu t'inscris et tu te dis, oui, mais en fait, si je vais là, si je fais médecine ou si je fais prépa, je peux plus jouer au tennis. Ouais. Donc là, en fait, tu te retrouves face à la décision que tu dois prendre. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Donc, on va dire que j'ai trouvé un juste milieu en me disant, bon, bah, je vais faire une licence d'anglais parce que l'anglais me prend pas trop de temps, c'est ma matière préférée. Et à la fois, j'avais trouvé un deal pour rentrer à HEC. C'est un peu long ce que je raconte là, mais.
Attends, ce podcast est long. Hein. Donc, okay. Tu peux donner tous les détails que tu veux.
J'ai trouvé un deal pour pouvoir rentrer à HEC, donc en première année. Donc, c'était une arnaque totale. Ouais. C'était en sautant la prépa donc, et en sautant le moindre examen d'entrée après une licence n'importe laquelle. Par une passerelle de sportif de haut niveau. Je me suis dit, chic, je vais pouvoir aller à la fac, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours à la fac, ça va me permettre de jouer au tennis pendant 3 ans, et après, je reprendrai la voie normale et je serai rassurée de ne pas être, de me mettre trop écartée du chemin que je me dis normal ouais. dans ma tête à l'époque. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait cette licence, j'ai joué au tennis à côté, mais finalement, tu te rends compte qu'à la fac, tu peux pas t'entraîner à côté professionnellement, mais je savais pas exactement ce que ça voulait dire. Tu vois, j'ai découvert au fur et à mesure, tu te dis, ok, il y a pas beaucoup d'heures de cours, mais en fait, j'ai cours de 8 à 10 et de 17 à 18, comment je fais?
Ouais, c'est sûr. C'est ouais, pas possible. Ouais, c'est pas aménagé pour les sportifs.
Exactement.
Quoi.
C'est pas un sport-études. Ouais. donc voilà, après ma licence, j'ai joué tout l'été et je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, j'ai eu la sensation d'avoir un bagage, d'avoir un tampon pour mes parents parce que j'avais un diplôme. Et j'ai joué tout l'été, j'ai eu un bon classement. La fédération a proposé de m'entraîner à la rentrée, donc en septembre, juste après mes 20 ans. Et donc là, je me sentais, on va dire, légitime de me dire, ok, maintenant je me lance à fond, je vais jouer au tennis, j'ai un classement, j'ai une licence. Et c'était presque le temps qu'il m'avait fallu pour m'autoriser à me considérer comme
sportif de niveau.
Sportif
quoi.
De niveau. Mais pas encore, ça arrive un peu plus tard, je dirais même.
Ouais, mais en fait, c'est fou, c'est à quel point on est modelé par ce qu'on voit. Enfin, je parle souvent de l'importance des rôles modèles dans ce podcast, mais peut-être qu'en effet, si t'avais eu, je sais pas s'il y avait vraiment des joueuses de tennis françaises plus âgées, tu vois, qui. Auquel t'aurais pu t'identifier pour te dire en fait c'est une carrière, c'est respecté, ça coche, tu vois, les cases peut-être que t'avais besoin de cocher. Mais en fait là, je trouve qu'il y a peu de modèles. Je pense que c'est même plus facile pour un homme de se dire, même si t'es dans une famille, tu vois, qui est très portée sur les études, de se dire ok, bon bah il y a Tsonga, il y a Gasquet, il y a voilà, qui nous montre que Yannick Noah, que en fait ça peut être vraiment une carrière et pas la peur qu'ont un peu, je pense, pas mal de gens qui sont dans le sport, de se dire en fait on a tellement répété, c'est 1 sur 1 million que... Il y a trop peu de chances que j'y arrive, quoi.
C'est ça, en fait, mais je pense que ça vient beaucoup de tes parents aussi et de ton environnement, parce que tu peux avoir des parents qui vont te dire c'est 1 sur 1 million, soyons safe, on va pas s'embarquer là-dedans, c'est pas pour nous, ça c'est les autres. Mmh. Et vraiment comme peut-être n'importe qui se dirait « Ah, est-ce que je vais devenir une grande chanteuse ?» Tu te dis « C'est inaccessible. Mmh. » Donc moi, j'étais dans cette idée d'inaccessible par rapport au tennis professionnel. Mais tu peux aussi avoir un parent qui va te dire tu vas être la personne qui va gagner des grands chelems et qui va devenir numéro 1 mondial, c'est sûr et certain, et qui te met ça dans le crâne depuis tout petit. Et dans ce cas-là, la question se pose même pas. Ouais. Tu vas même pas te dire, bon, bah, je vais aller à l'école. Non, tu te dis, bon, bah, voilà, je suis ma route et c'est ce que je vais aller chercher.
Et tu penses, avec le recul, je sais pas si t'en as rencontré qui ont eu ce type de parents, est-ce que tu penses que.
Le deuxième type de parents.
Est-ce que tu penses que c'est plus bénéfique d'avoir des parents qui, dès le début, te conditionnent pour être un champion? En fait, avec tout ce que ça représente, c'est-à-dire d'un côté, bah, peut-être ça te facilite les choix et puis tu t'y vois tellement que tu le deviens. D'un autre côté, t'as peut-être la pression que t'avais pas toi, ou alors, on en parlera après dans le podcast, mais tu vois, le rapport à l'échec qui peut être vachement dur quand en fait on t'a répété toute ta vie que tu seras un champion, quoi.
Ouais, ça double tranchant, ça, c'est... J'en ai vu des centaines. Donc je pense que c'est vraiment au cas par cas. Ça peut être sain comme ça peut être malsain. Ça peut être lourd à porter comme ça peut être très... comment dire,
libérateur,
galvanisant.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Voilà. Ou même indispensable aussi parfois. Et ça dépend vraiment de si c'est le père, si c'est la mère, si c'est l'oncle, si c'est la tante, si c'est un entraîneur que t'as rencontré quand t'avais 8 ans, qui t'a pris sous son aile et qui t'a emmené. Donc il y a vraiment pas de règle, mais c'est vrai que globalement, il y a beaucoup d'histoires où après, psychologiquement, c'est compliqué.
Ouais. Ça l'est dans tous les cas, mais en tout cas, peut-être plus quand t'as cette pression supplémentaire.
Peut-être que ça arrive un peu plus tard. Et à la fois, comment ne pas avoir envie, quand tu joues au tennis et que tu voyages 40 semaines par an depuis l'âge de 12-13 ans, d'être accompagné par un parent qui est la personne qui voudra le mieux pour toi, a priori, ou plus que n'importe qui d'autre, que tu fasses bien, que tu réussisses, versus une personne que tu vas payer, que les parents vont payer en se disant « Oh, on va rester un petit peu loin, on va donner ce rôle-là à quelqu'un d'autre. » Personne ne remplace un parent, finalement, aussi, dans ces conditions-là. Ouais, donc, c'est difficile à dire.
Ouais. Ok. Et comment est-ce que ta vie change à partir du moment où tu choisis vraiment de te consacrer au tennis ? Est-ce que ton rythme de vie change ? Est-ce que ton mode de vie change ? Est-ce que ta façon de penser change ?
Alors, ma façon de penser, pas tout de suite. Je pense que c'est surtout physiquement. Donc, je me rappelle que les premiers mois à la Fédération Française de Tennis, c'est la première fois que j'ai eu un emploi du temps tennistique. Donc, comme j'avais connu à l'école, j'ai français, j'ai maths, je finis par la philo et j'ai sport entre les deux. Mmh. Bah là, c'était ok, on a échauffement, on a muscu, on a tennis, on va déjeuner, on a encore tennis. Ensuite, on a sprint, vitesse et à la fin, on a kiné et peut-être un peu de sophrologie. Et c'est vrai que physiquement et mentalement, j'étais mais morte. Mmh. Vraiment, c'est la première fois que je connaissais le rythme. Tu te lèves, tu vas au travail en fait. L'idée d'un travail, je remplis une journée et je vais me coucher et je n'ai l'énergie pour rien d'autre. Ça, c'est la première fois que je l'ai connu donc à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été assez choquant physiquement pour moi.
J'imagine. Et surtout, je me dis, ça doit être très bizarre de passer d'une vie où tu vois, tu as des études, tu as des sorties, mais donc, notamment ce côté, je trouve, tu vois, le travail intellectuel, en fait, tu ne fais quasiment plus que du sport. Et c'est vrai que moi, je me suis toujours demandé, surtout que tu avais fait des études avant, je me suis toujours demandé, est-ce qu'il n'y a pas un moment, un manque, tu vois, de je sais pas, de gymnastique intellectuelle ou tu vois, où en fait là c'est quasiment que l'utilisation du physique, quoi.
À ce moment-là, non. Je pense un peu plus tard quand j'ai vieilli, mais à ce moment-là, non, parce que il y a un truc qui est assez fou, et quand tu t'entraînes autant, au final t'as pas le temps de réfléchir et t'es tellement fatigué le soir que ta tête elle a même plus la force en soi.
Ouais.
Elle a même plus la force et donc elle a même plus envie, parce que, et je m'en suis rendu compte là depuis que j'ai arrêté, j'ai tellement plus d'énergie mentale à penser à plein de choses ou à même m'ouvrir à plein de choses juste parce que j'étais épuisée moralement. Mais j'adorais, c'est hyper addictif aussi d'être là le soir et d'arriver et te dire non mais là j'ai même plus la force de réfléchir à quoi que ce soit, je suis trop fatiguée.
C'est la bonne fatigue, quoi.
C'est de la bonne fatigue et tu te sens en plus content de toi, tu te sens fier de toi, t'es allé rechercher ce que tu voulais pour construire pour ton objectif.
Carrément. Et ça, vraiment, des questions que je me pose par rapport à ce sujet, c'est la comparaison, qui je trouve est vachement toxique dans notre société, parce que, notamment avec les réseaux sociaux, ça devient beaucoup plus facile de comparer sa vie à celle de quelqu'un d'autre. Mais dans le sport, il y a vraiment ce truc d'en fait, c'est toi ou lui, ou elle en l'occurrence. Comment t'as géré ça, ce rapport à, tu vois, même si toi, tu donnes le meilleur de toi-même, et que j'ai l'impression que la plupart des gens s'entraînent en indiv, donc tu vois, t'as pas forcément conscience du progrès des autres, comment tu gères le fait de pas tomber dans le piège de la comparaison ?
Je pense que j'ai eu de la chance par rapport à ça. Je saurais pas te le dire, mais j'ai toujours observé beaucoup des filles qui sont beaucoup plus tombées dans ce piège. Après, au tennis, c'est vraiment particulier parce que au-delà de la comparaison avec les autres, tu portes un chiffre. C'est-à-dire que dans un sport co, si je fais partie d'une équipe, je fais partie d'une équipe. Ouais. Ok, point. Pour l'année, j'ai signé. Au tennis, ton classement, il varie toutes les semaines. Donc en fait, selon si tu joues bien ou si tu joues pas bien, tu vas avoir un chiffre. Et donc en fait, petit à petit, le piège dans lequel tu peux tomber, c'est de penser que ça va être ta valeur humaine. Parce que, tu sais comment ça marche dans la vie, selon si ça brille ou si ça brille pas trop, les gens vont se comporter d'une façon ou d'une autre à l'instant T. Et ça, c'était quelque chose que je ressentais très fort. C'est-à-dire que quand on arrivait dans la salle de gym, si on venait de faire un tournoi et comme tout le monde connaît les résultats de tout le monde, tu t'arrives et que t'as fait un bon résultat, tu arrives là beaucoup plus fier ou bien dans ta peau que si tu viens de faire 3 ou 4 premiers tours d'affilée et que t'as la tête dans le seau et là où t'as l'impression que t'es nul et que t'es pas à ta place et que tout le monde le sait et que tout le monde se dit et que et voilà. Enfin, et ça peut se transporter à plein de choses dans la vie normale, mais au tennis c'est comme ça. Et effectivement, la comparaison est extrêmement facile. Parce que y a des résultats chaque semaine et il y a un chiffre. Donc tout simplement, tu as des âges. Le plus dur pour moi, ça n'a pas été tellement je dirais pas que je me suis comparée en termes de... par rapport à une autre fille en particulier, mais c'était par rapport à l'âge. Ça, c'était vraiment, vraiment dur. C'est-à-dire qu'on te fait tout le temps sentir que tu es... que tu, y a des, ils appellent ça des temps de passage, que t'es trop vieille. Donc c'est-à-dire que si t'es pas à tel classement à 18 ans, ou si t'es pas à tel classement à 20 ans, ou t'es pas à tel classement à 25 ans, tu vaux rien. Et ça, c'est quelque chose de très insidieux, tu sais pas, mais ça te rentre dans la tête, et ça te rentre dans le corps, et malgré tout, ça te c'est incrusté à l'intérieur de toi, et c'est extrêmement destructeur.
Ouais.
Et moi, je l'ai beaucoup ressenti, parce que j'ai commencé tard. Donc en fait, dans mon groupe, tout simplement, j'étais avec des filles plus jeunes, et à partir de 20 ans, on disait, ok, on va te prendre à la fédé, mais bon, à partir de, dès que tu passes les 20 ans, on va plus te payer ça. C'est-à-dire tu vois un peu moins, on croit un peu moins en toi, donc on va un peu moins investir sur toi.
Ouais, en plus c'est chiffré quoi.
Ouais, c'est
hyper
chiffré.
Concret.
Donc t'as une fille qui a 19,5 ans, et ben on va lui payer ses repas. Et moi j'étais là à côté, je sortais la carte bleue ou autre, ou alors on va te dire bon bah voilà, et dès que tu auras 22 ans, on va plus te donner d'entraîneur. Et je caricature, mais il y a des choses comme ça en fait qui
ouais,
se passent.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc t'as sans cesse la pression de l'âge en permanence en te disant oh, je suis pas assez fort, tu es trop vieille, je suis pas assez fort, je suis trop vieille. Et c'est vrai que c'est tellement malsain de se dire ça. Et après tu repars en arrière dans ta tête et je me dis, mais bon, même, par exemple, pour moi-même, mon meilleur classement, j'avais 24 ans et je me disais, mais c'est la moindre des choses. C'est-à-dire, c'est incroyable, j'ai 24 ans, je devrais être mille fois plus forte que ça. Ah, ou alors, si t'es un entraîneur qui t'entraîne, mais tu sais que juste avant, il a entraîné une fille qui avait 18 ans, bah, tu te sens un peu une vieille chaussette.
Ouais, non, mais il y a 24 ans, quoi, c'est fou.
Ouais, en vrai, c'est, tu peux le reporter à chaque année. À 20 ans, tu peux le sentir. À 18 ans, tu peux le sentir, puisqu'on va te parler des filles de 13 ans. Et au tennis, on te parle des années d'âge. Donc on dit, ah ouais, c'est une 2009, ah, c'est une 2008, ah, c'est une 92. Et si t'es une 80, on parle d'une 92 et que toi, t'es une 90, c'est comme s'il y a un gap énorme et que rien que par sa jeunesse de 2 ans de moins, elle a plus de valeur que toi.
Ouais. Et comment t'as réussi, si t'as réussi, à te détacher de ça, en tout cas à pas te laisser... Enfin, parce qu'en fait, je me dis, c'est déprimant. Enfin, tu vois, sinon, pourquoi... Enfin, tu vois, c'est très dur de se battre quand t'as l'impression que les personnes ne croient pas en toi, quoi.
Je l'ai subi pendant très longtemps, et je me souviens juste d'une fois où j'ai eu un coach quand j'ai eu 25 ans. Et il avait entraîné une fille donc, qui était de 93, donc elle avait 3 ans de moins que moi. Mais c'est drôle, parce que plus tu vieillis, plus les années te paraissent rien du tout. Ouais. Mais à l'époque, ça me paraissait 20 ans. Et il l'avait eu depuis qu'elle était toute jeune, et il l'avait fait monter top 30. Et moi, quand il m'a eu, j'étais 135e mondiale. Et en fait, il arrêtait pas de me le faire ressentir par des petites phrases, ou par-ci, par-là, ou soit en comparant tout le temps. Rien que les coachs, en fait, c'est toxique. Les coachs qui passent leur temps à te parler des années d'âge de la fille que tu es en train de regarder jouer. Ah ouais, mais elle, c'est une 91, elle, c'est une 92. Ça te rentre dedans malgré tout.
Ouais, ouais, ouais.
Et
ça te définit après,
ouais,
quoi.
Et un jour, je sais plus ce qui s'était passé, mais j'avais pff, c'est marrant, je l'ai effacé de ma mémoire, mais il a dû me dire une phrase à table qui m'avait beaucoup blessée, qui était de cet ordre-là. Je suis rentrée dans ma chambre, je me souviendrai toujours, j'étais en Angleterre, ma chambre était minuscule. J'ai pris le top 100 des filles, parce que à côté de ça, on n'arrêtait pas de dire le top 100 vieillit, le tennis vieillit, on joue de plus en plus vieux, on devient fort de plus en plus vieux. À l'époque, c'était les filles de 17 ans qui gagnaient, maintenant c'est plus possible, maintenant tu vois des filles qui ont 35 ans, qui sont sur le circuit et qui jouent très bien, etc. Et j'ai pris toutes les filles du top 100 et j'ai noté les années d'âge de chaque fille et j'ai additionné les 100. Et j'ai divisé pour voir
la moyenne.
Quelle année j'avais, et donc la moyenne, et donc quel âge. Et j'avais trouvé, je sais plus, 30 ans, ou 29,5, ou un truc plus âgé que moi. Et il a fallu que je me le mette sur papier pour essayer de me dire, mais Alizée, stop, c'est faux en fait, voici les chiffres. Mais bon, à vrai dire, honnêtement, la comparaison par rapport à une autre fille, j'ai jamais ressenti la jalousie ou de se comparer trop. Parce que je pense que de toute façon, mon tennis, ça n'a pas de sens, puisque... En vrai, ce serait une autre, c'est une race. Donc, t'auras toujours quelqu'un qui sera devant toi ou derrière toi, etc. Donc, ça n'a aucun sens de se cibler sur une fille. Ça, je suis jamais tombée dans ce piège-là. Et heureusement. Mais par contre, l'âge. Encore aujourd'hui.
Ouais.
Ça commence peut-être à disparaître un tout petit peu aujourd'hui parce que je m'en écarte, mais...
Mais en fait, j'ai un chapitre dans mon livre sur la vieillesse et voilà, j'ai lu beaucoup de choses à ce sujet. Et en fait, pour le coup, je pense que dans le tennis, ça vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes, même si, comme dans tout, j'ai l'impression dans notre société, c'est moins prononcé pour les hommes. Mais en tout cas, c'est fou de voir que le sport est peut-être un domaine où c'est exacerbé, mais toutes les réalités de la société en général, tu vois. C'est, après, moi, c'est, tu vois, j'en parlais avec ma mère ou même mes tantes. En fait, c'est qu'elles te disent qu'à partir d'un certain âge, t'es plus regardé dans la rue, à partir d'un âge, t'es plus considéré de la même façon. En fait, t'es même invisibilisé, tu vois, que ce soit des médias, que ce soit des magazines, enfin, des films. Et en fait, je pense que t'as ce sentiment de, en effet, ne plus avoir de valeur parce que t'as plus les récompenses que la société pouvait t'octroyer. Et en plus, pour les femmes, c'est très lié à l'apparence physique, parce qu'en fait, tout ce qui va faire, on va dire, la considération de la femme et les attributs de la féminité, donc notamment bah oui son apparence physique, le fait qu'elle soit ingénue, enfin voilà, le fait qu'elle corresponde vraiment à l'image qu'on se fait de la jeune femme, c'est ça qui va faire qu'elle est valorisée, alors que les hommes en fait c'est souvent plus la réussite, le prestige, peut-être même l'argent, donc qui sont d'autres enfin voilà, ça reste quand même des critères, mais qui sont indépendants de l'âge, alors que nous ce qu'on a considéré comme être assez bien, ça va vraiment être très lié à notre poids, à notre apparence physique, à notre âge.
Quelque chose qu'on ne contrôle pas, au final.
Quelque chose qu'on ne contrôle pas et qui nous pousse, du coup, à changer, à payer, à faire de nombreuses procédures ou s'infliger des régimes.
Battre contre le temps, j'imagine, notre...
Mais tu vois, moi, j'en parle souvent. Ouais, et le terme anti-âge pour les crèmes, je le trouve absurde. Tu vois, s'il y a bien une chose contre laquelle on ne peut pas lutter, c'est le temps qui passe. Donc pourquoi est-ce qu'on achète des crèmes anti-âge? Mais parce que, en fait, ça te permet de.
Anti-visibilité de l'âge, en fait.
Non, mais c'est ça. C'est, en gros, faut pas que tu fasses ton âge comme si c'était une honte, alors que tu vois que dans plein de sociétés, plus primaires, ou en tout cas même dans des pays d'Afrique où la vieillesse va être plus une. Ça va plus être un respect, ça va plus être une qualité. Bon, on n'a pas du tout le même rapport à la vieillesse, parce qu'en fait, c'est les aînés qui sont les plus respectés. Alors que je trouve que dans notre société, il y a une défiance par rapport aux personnes âgées, quoi. Il y a un peu une. On va aimer les nôtres, nos grands-parents, mais sinon, ça va être, tu vois, un peu les pauvres, la déchéance. On voit pas le côté du tout. Bah attends, ils ont vécu, ouais. ils ont une sagesse de ouf, ils ont une expérience de vie incroyable. Pourquoi est-ce qu'on les valorise pas plus, quoi? Pourquoi même est-ce qu'ils sont pas plus sur des plateaux télé? A priori, je pense qu'ils ont mieux compris la vie que nous. Mais en effet, si t'es à la télé maintenant, tu vois très bien que en fait... là aussi, t'as une espèce d'âge limite, quoi.
Ouais, ça c'est beaucoup dans les métiers d'image, mais je me dirais quand même que dans les entreprises, quelqu'un qui a accumulé beaucoup d'expérience et qui va être respecté par son expérience, même oui. s'il est plus vieux, parce que dans ce cas-là, dans une situation comme ça, on va pas être axé sur le physique.
Ouais, ça dépend des entreprises. Mais
Je sais ça, mais j'ai pas bossé en entreprise. Ouais. J'essaie d'imaginer d'autres situations.
Non, mais c'est sûr que dans le cadre de l'entreprise, l'expérience est valorisée, même, tu vois, en termes de salarial, donc ça veut aussi dire que c'est lié à la valeur. Mais c'est plus, je trouve, dans la vie de tous les jours, tu vois. Je trouve ça vraiment dommage et c'est marrant que dans le sport, toi, tu l'aies vraiment vécu de manière exacerbée et à un très jeune âge.
Oui.
Et donc, en fait, on voit que c'est absurde. On voit que c'est vraiment arbitraire, tu vois. En fait, on aurait pu décider que les femmes sont périmées à 25 ans. Aujourd'hui, c'est, je sais pas, tu vois, ça va être peut-être à partir de 50 ans. Mais en fait, on pourrait arbitrairement décider que ce soit 80 et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus visibilisé les femmes qui sont entre 50 et 80 qu'on voit quand même très peu.
De la même manière que arbitrairement, on peut commencer à te faire sentir à 12 ans au tennis. Si on te met dans un groupe qu'avec des filles de 10 ans et que tu t'entraînes toute l'année avec elles, inconsciemment, si tu as quelqu'un qui est un peu axé là-dessus et qui t'entraîne, tu vas te sentir un peu... Tu vas commencer à développer ce sentiment-là. Donc c'est, en fait, c'est à n'importe quel âge, ça n'a pas de sens.
Donc en fait, c'est l'environnement et... Ouais, t'as raison. Donc c'est, bon, c'est rassurant parce que le fait... J'espère que pour les personnes peut-être qui sont plus âgées que nous et qui ressentent ça, se rendent compte, par cet exemple du sport, qu'en fait, c'est exactement le même procédé dans la société, à un âge différent, mais qu'en fait, il est tout aussi arbitraire que ce que t'as vécu toi, quoi.
Ouais, en plus, je te donne ça par hasard comme exemple, mais à la fois, je me rappelle que quand je suis rentrée à cette ligue dont je parlais tout à l'heure, j'étais de 90 et je m'entraînais qu'avec des 91. Et je me souviens que ça, c'était déjà un peu genre, ah ouais, mais elles sont plus jeunes que moi. Ah oui, si je l'ai battue, ah oui, mais elle est plus jeune que moi. Donc ça vaut pas, ça vaut
ouais,
rien.
Ouais, ouais. Non, mais en plus, je voulais te parler de ce rapport à la performance, parce que j'ai lu dans des interviews que t'as donné que, après des... T'as des tournois que t'as pas réussi aussi bien que tu le voulais, ou que, après un match où tu perds, comment, en fait, ne pas se laisser définir par ses résultats et par sa performance? Et je pense que ça vaut là aussi dans le sport, aussi bien que dans la vie de tous les jours, où en fait, même ça a commencé avec les notes, tu vois, on commence à attribuer notre valeur aux notes, et aujourd'hui, ça va être, je sais pas, ça peut être au salaire, ça peut être à la validation sur les réseaux sociaux, ça peut être à plein de choses différentes, mais est-ce que toi, t'as réussi à évoluer dans ce rapport à la performance?
Oui et non, dans le sens où... oui, parce que, on va dire, si je dézoome, je le sais, donc j'en suis plus consciente que quand j'avais le nez dedans, H24, 7 jours sur 7, 365 jours de l'année, et à la fois, il y a ce sentiment, tu l'as même sans te le dire, en fait, c'est-à-dire après une défaite, où tu te sens nul, même si tu te dis pas, ok, je vaux rien, etc., et ça c'est difficile à exterminer, en fait.
Bah ouais, totalement. Et est-ce que vous avez, on vous apprend des méthodes pour rebondir plus vite? Parce qu'en plus, vous avez des tournois souvent, quoi, des compétitions souvent, donc je me dis, tu peux pas rester avec ce sentiment-là, tu peux pas le laisser prendre toute la place, quoi.
Non. C'est une très bonne question parce que je me dis non, en fait, on n'a jamais développé de méthode. Moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Je me rappelle avoir parlé à un psychologue à l'époque de la Fédération où on parlait de trouver le gris entre le blanc et le noir, etc. Mais au final, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, ouais. C'est facile à dire.
Ouais.
Et non, vraiment pas. Et après, c'est très aléatoire. Tu sais pas pourquoi il y a des défaites qui vont te toucher beaucoup plus que d'autres et il n'y a pas de règle. Parfois, c'est un truc hyper important pour toi, mais en fait, tu passes à autre chose en deux secondes. Mm. Parfois, il y en a, tu t'y attends pas. En fait, ça va durer des jours. Et c'est vrai qu'après, il y a une sorte d'entraînement à ça, à l'intérieur de ton corps, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu joues toutes les semaines. Donc, en fait, si tu sais que tu vas rejouer dans trois jours, t'as pas trop le temps de te laisser abattre, en fait, quoi qu'il arrive. Donc, c'est un peu la vie et d'être dans l'action qui fait que ça va te faire passer à autre chose. Mais sinon, non. Enfin, personnellement.
Bah, j'imagine que c'est la gestion des émotions.
Tu dois le décider comme ça.
Ouais,
parce que,
ouais.
Ah, je vais décider que ça m'affecte plus. Ben, je sais pas, après, il doit y avoir des chemins psychologiques à prendre, peut-être, mais je n'avais pas travaillé ça.
Ouais, non, mais je pensais que dans le sport de haut niveau, justement, en effet, peut-être des coachs ou des préparateurs, tu vois, ils apprenaient à dire, bon, bah. Enfin, je vais pas donner tellement de conseils parce que je ne suis pas sportif de haut niveau, mais j'ai regardé la série Drive to Survive sur Netflix par rapport à la F1. Et en fait, tu vois que, alors je pense à Lewis Hamilton, mais qu'après chaque, voilà, chaque course où il n'a pas eu le classement qu'il aurait aimé avoir, en fait, il arrive très vite à se. Il a réussi à se conditionner en mode, ok, je vais vraiment genre étudier. Le match, je vais regarder le replay, je vais voir là où en fait j'aurais pu faire mieux, et comme ça en fait ça lui donnait, on va dire, la motivation et l'énergie pour se remettre en selle et se dire ok, c'était une erreur qui va m'amener à un stade, on va dire, supérieur, et en fait je vais faire de cet échec quelque chose de positif, quoi.
Alors effectivement, quand tu as la chance d'avoir, alors nous ça, c'est pas forcément de l'étude vidéo, tu peux pas vraiment faire ça tout seul, mais c'est un coach, quand t'as un coach du coup qui a un regard sur toi, qui t'apporte un regard extérieur en te disant « t'as fait ça de bien, t'as fait ça de mal, viens, on va retourner au travail tout de suite », c'est beaucoup plus facile de passer à autre chose que quand t'es seul, que tu sais pas pourquoi, que donc tu ne peux pas te concentrer sur quelque chose de concret et de précis et à améliorer, comme tu viens de le dire pour Lewis Hamilton, mais que tu t'enlises dans ce simple sentiment de nullité,
ouais,
et sans avoir quelque chose de concret à tirer.
Ouais.
Ça, c'est le pire sentiment.
Ouais.
Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours trouvé que la vie tennistique est extrêmement difficile quand tu es seul. Alors que finalement, c'est difficile aussi quand t'as un coach, mais rien que pour moi, ça m'allégeait de 90% de ce poids. Pour cette raison-là que je viens d'évoquer, c'est plus facile de passer à autre chose parce que, ok, tu peux aller de l'avant, tu peux te dire, bon, bah, comment je corrige ça ? Et tu te sens moins.
Bah, c'est ça, t'as une espèce d'option, quoi.
Oui,
t'as
c'est
une solution
ça.
Pour aller de l'avant. Je sais que t'as pas mal parlé, et puis on parlera de ton livre aussi, mais du fait que bah, t'étais HPI et hypersensible. Alors, je sais pas si c'est les deux, mais en tout cas, j'ai vu HPI. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, donc est-ce que déjà, tu peux nous dire ce que c'est ? Comment tu l'as su ? Et puis, on viendra après au. Comment tu vis avec, quoi.
C'est marrant, j'ai pensé à la voiture, je me disais, elle va me demander.
Ouais.
Jusqu'ici, j'ai toujours répété les définitions des spécialistes parce que c'est pas mon domaine. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui définis ce que c'est. Donc, je suis quelqu'un qui reçoit les informations et qui essaye de. Forcément, comme j'ai sorti ce livre, on m'a posé la question. Et je me suis dit, quelle serait ma propre définition pour la première fois, celle que je me ferais en prenant tous les éléments que j'ai compris en étudiant le sujet ou en écoutant en parler. Être HPI, déjà, c'est physiquement et chimiquement avoir un cerveau à l'IRM qui fonctionne différemment, qui allume des régions différentes. Donc ça, c'est ils ont fait ces tests-là avec des IRM fonctionnels. Il y a aussi une différence au niveau... Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais matière blanche, matière grise et de la façon dont les connexions se font dans le cerveau. Donc ça, c'est la différence physique. Après, ça a donc une influence sur la façon de penser, indéniablement, et aussi sur la façon d'être au monde. Et donc, ça entraîne un certain nombre de conséquences dans le fonctionnement et la personnalité qui peuvent varier d'une personne à l'autre, mais on retrouve quand même beaucoup de ces conséquences et qui deviennent presque des caractéristiques par la force des choses chez beaucoup de ces personnes HPI. Voilà.
Ok, qui sont...
Et dont l'hypersensibilité. Ouais. Mais là, est-ce que tout le monde est d'accord ? Je ne sais pas. Les psychologues, par exemple la psychologue qui a écrit la préface de mon livre, dit qu'ils sont tous hypersensibles. Après, moi je suis pas scientifique, donc je répète juste ce qu'on me dit. Est-ce que moi je suis hypersensible ? Oui.
Ouais, ouais.
Mais je peux pas parler pour tous les HPI.
Ouais. Voilà. Et du coup, ça se caractérise par une pensée en arborescence, par le fait de réfléchir tout le temps, d'être très vite, d'avoir l'attention captée par différents, enfin voilà, par toute sollicitation, et d'avoir du coup des émotions accrues, j'imagine.
Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait, ça pourrait être à l'infini. La liste pourrait être tellement longue. Alors, oui, les principales chose dont on peut parler tout de suite, c'est une hyperactivité cérébrale, ça c'est sûr, l'envie d'arrêter sa pensée et de ne jamais avoir de bouton stop. Donc moi, ça pose des problèmes de sommeil. Et quand tu lis ça à une hypersensibilité, donc, qui est donc l'exacerbation des cinq sens, et encore une fois, je cite Jeanne Chauffachin pour ça et des psychologues, parce que c'est pas moi qui étudie l'hypersensibilité. Donc, une exacerbation des cinq sens, donc le toucher, la vue, l'ouïe, donc une hyperesthésie, une hyperacousie, etc. Ça a une influence sur le quotidien. Et donc, ça exacerbe les émotions. Après, dans quel sens ça va, c'est compliqué pour moi
d'expliquer.
Surtout
que ça doit être du cas par cas, c'est sûr. Mais du coup, bon, c'est, on va dire, j'imagine...
Je dirais que l'hypersensibilité flambe parce qu'elle est associée à l'hyperactivité cérébrale. Donc si tu as une capacité d'analyse ou une hyperlucidité à 360 sur une situation et que tu l'associes à une sensation physique, ça flambe.
J'imagine le sentiment, j'ai plutôt juste la partie cérébrale mais pas la partie physique. Donc est-ce que on t'a appris à en faire une force cette différence, on va dire, même si elle concerne je crois beaucoup de monde. Enfin, j'ai reçu Fabrice Midal sur le podcast qui a sorti un livre sur l'hypersensible. Je crois qu'il disait que c'était près de 30% de la population. Donc là, on parle juste du côté hypersensible, mais voilà, comme c'est un fonctionnement qui est quand même différent et qui a l'air aussi un peu envahissant par moment, est-ce que t'as appris justement à pas te dire mais enfin pourquoi ça m'arrive, enfin tu vois, et se dire ok, en fait j'ai ces pouvoirs là, tu vois, j'arrive à le voir comme ça, et donc au quotidien je vais faire en sorte que ce soit une force.
Alors j'ai oublié juste de dire un truc qui c'est que donc j'ai parlé de la prédisposition, je sais pas, des différences, on va dire physiques et chimiques. Après, comme on le sait, on fait un test de QI et on considère que les personnes HPI sont celles qui ont un QI supérieur à 130, et on analyse aussi d'autres choses parce que c'est pas juste un test. C'est pas juste ça, donc il y a des tests de personnalité qui sont associés à ça. L'hypersensibilité, aujourd'hui, apparemment, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test validé, prouvé scientifiquement, qui peut valider une hypersensibilité. Donc c'est très difficile de dire, ok, est-ce qu'une personne est hypersensible ou pas, est-ce que je le suis ou je le suis pas, parce qu'en fait, au final, c'est selon comment nous on se sent. Mais voilà. C'était quoi ta question déjà ?
Ma question, c'était comment tu as réussi à en faire une force, en fait, surtout dans le monde du sport où... ça peut être, je pense, un handicap presque.
Oui, alors c'est vraiment à double tranchant, cette spécificité ou cette particularité. Parce que naturellement aussi, grâce à ce fonctionnement, quand j'ai dit il y a des conséquences, on a évoqué ça, mais il y a aussi une capacité de rebondissement ou une résilience qui est déjà exacerbée aussi. Donc dont tu peux naturellement te servir parce qu'elle t'a été donnée. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc le côté force et faiblesse, pour moi, il est donné de base.
Ouais.
Après, est-ce que tu arrives à pencher la balance d'un côté ou d'un autre ? C'est vraiment selon ce que t'offre la vie et comment, effectivement, tu te sers de tes pouvoirs, pour reprendre tes mots tout à l'heure. Et ça, c'est un travail de tous les jours qui n'est jamais acquis. Donc, je dirais pas qu'il y a un moment où tu dis « ça y est, j'en ai fait une force, c'est bon ». Non, c'est-à-dire qu'à un instant T, t'en fais une force. À un instant T, tu te fais piéger. À un instant T, c'est une douleur et c'est une souffrance. À un instant T, tu arrives de nouveau à en faire une force et tu cherches en permanence à en faire une force. Mais au final, il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment « je connais mes forces et mes faiblesses, comment je les utilise dans chaque situation qui m'est donnée par la vie ».
Ouais. Et qu'est-ce que tu voulais partager dans ce livre Éloge de l'inconditionnel ? Pourquoi tu t'es dit ok, j'ai quand même envie de parler de ce sujet-là au grand public ?
En fait, j'ai pas eu envie de parler de ce sujet-là au grand public, je voulais parler de tennis à la base.
Ouais.
Je voulais parler de tennis et je voulais faire un livre qui expliquait le tennis à haut niveau. Parce qu'à chaque fois que je parlais à des gens, je me rendais compte qu'ils savaient pas ce que ça voulait dire. Quand je disais « Ah oui, nous on paye notre entraîneur, oui on est tout seul, oui c'est un sport individuel », les gens ont tendance à juste regarder le tennis à la télé et à penser que c'est ça et c'est tout, et à pas forcément comprendre le mécanisme général. Et je trouve qu'avec mon parcours, c'était une bonne idée de le faire de l'intérieur, parce que comme j'ai découvert, comme une personne lambda, comme on disait tout à l'heure, qui n'a pas eu l'esprit forgé à ça, donc qui a pu avoir un regard...
un recul, en fait.
Complètement neutre, de partir d'une page blanche et qui a observé « Ok, donc le tennis c'est comme ça, ok, les gens sont comme ça. Ok, on va faire ça. » Je pouvais emmener, je me disais, j'ai l'opportunité de pouvoir emmener le lecteur ou une spectateur dans l'intimité de ok comment c'est la vie d'une joueuse de tennis, de la même façon que je me suis dit j'adorerais avoir un livre de quelqu'un qui m'explique comment c'est le milieu de la danse classique en partant de zéro et comment tu franchis les étapes, etc. Donc je voulais parler de ça, et après je sais pas pourquoi en commençant à écrire j'ai commencé à écrire sur mon enfance, et je pense que j'ai été biaisée ou préformée dans ma tête que c'était déjà écrit inconsciemment parce que j'avais lu beaucoup de témoignages de personnes HPI surdouées. Donc peut-être qu'en lisant souvent les passages sur les enfances, j'avais sûrement écrit mes propres passages et c'est sorti comme ça. Et au final, j'ai fait un ordre chronologique qui fait que ça a tout englobé et que dans ma façon de raconter le tennis, au final, j'ai pas pu me détacher de ce que j'étais et de ma particularité. Et au moment de le publier aussi, je dois avouer que je suis partie, j'ai pas eu de piston quelconque pour pouvoir publier mon livre. Donc quelle était ma légitimité de le publier, je savais pas comment l'expliquer, c'est-à-dire qu'il est sorti comme ça et je me suis dit ça parle de quoi ce livre, vraiment je ne savais pas, et je me suis dit ça parle de tennis, ça parle de HPI, que j'ai envie d'en parler, de pas en parler, et je voulais pas en parler, je voulais pas le mettre dans le titre, et c'est les éditeurs qui m'ont forcé à en parler en me disant non mais c'est un sujet en fait, t'es obligé de le dire, tu peux pas juste pourquoi tu racontes ça. Alors moi je voulais pas, j'aurais voulu qu'il sorte brut comme ça, mais en fait j'ai pas eu l'autorisation entre guillemets.
Bah en fait je pense que c'est aussi oui pour que les gens se reconnaissent dans ton témoignage et que ça puisse parler. Moi je trouve ça bien au final, même si je suis pas pour les étiquettes, je trouve ça bien qu'on apprenne à ne pas faire de la différence quelque chose dont on doit avoir honte. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tu voulais pas le dire parce que justement, ça t'aurait peut-être catégorisé. Alors qu'en fait, voilà, t'es HPI, t'es tenniswoman. Et en fait, on devrait pas se dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que tu es comme ça et donc c'est ce qui te représente le mieux. Et pour le livre, c'est quand même ce qui compte, je pense, avant tout.
Oui, alors je pense que c'était surtout de la pudeur. Parce que pour moi, c'est pas quelque chose que tu crées sur tous les toits, c'est quelque chose de vachement intime. Parce que toi-même, tu sais ce que ça engendre à l'intérieur de toi, et en fait, c'est toi l'idée que tu te fais cette idée-là, parce que tu te dis oh, être annoncé cette étiquette, ça veut dire tout ça à l'intérieur de toi, donc c'est comme si tu donnais un livre ouvert.
Ouais.
Mais les gens savent pas forcément, et ils le reçoivent pas forcément comme ça de l'extérieur, donc au final, c'est pas si grave. Et bon, voilà, et je me suis faite à l'idée, et j'ai accepté, mais c'est vrai que ça a pas été facile, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise de venir sur ce podcast pour en parler que quand j'ai fait la promo de mon livre. Il y a eu un moment où j'ai arrêté toutes les interviews et j'ai annulé parce que je pouvais plus en parler.
Ouais.
C'était trop
malaisant. C'est dur en plus de parler tout le temps de la même chose. Je trouve un peu avoir fait de la promo aussi. Enfin, ça te réduit à une partie de toi et en fait, tu es bien plus. Et donc, je comprends totalement le sentiment parfois de. Ouais, non, mais c'est bon, quoi, j'ai tout dit, arrêtez de me poser des questions.
Ouais, puis j'avais pas décidé d'en parler, donc je me disais, ok, on me posait cette question, on me disait, qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais là, mais en fait, j'en sais rien, moi, ce que ça veut dire, c'est pas moi la scientifique, moi, je sais juste parler de moi.
En plus, ouais.
J'ai pas la légitimité de prétendre ce que les autres ressentent aussi, et quelle est la définition générale, donc c'était hyper compliqué.
Et pour revenir du coup sur ta carrière de tennis, si on fait un peu de l'ordre chronologique, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que t'as décidé d'arrêter et pourquoi ?
Le tennis ?
Ouais.
Enfin, ça s'est fait très progressivement et c'est toujours à moitié mi-fig mi-raisin.
Ouais.
Non, c'est vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu envie de faire d'autres choses. Et je m'étais toujours dit que le moment où j'arrêterais le tennis, ce serait un déchirement et que je serais obligée d'arrêter parce que, en fait, je me mettais tellement une date de péremption parce que je me mettais une certaine pression en me disant si tu réussis pas là, t'es pas légitime d'être là, donc tu devras arrêter, presque inconsciemment. Donc je me suis toujours dit, à un moment donné où j'aurais plus le choix, il faudra que j'arrête, je serais pas assez bonne. Et au final, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été que juste j'ai eu envie de faire d'autres choses. J'avais la trentaine qui arrivait, j'avais 29 ans, c'était l'année de mes 29 ans et je me suis dit, j'avais fait une liste d'objectifs que j'avais dans la vie, je sais pas si c'est des objectifs, des rêves.
Une bucket
plutôt.
List, ouais.
Ouais, une bucket list, mais vraiment des rêves en me disant j'aimerais bien faire ça dans ma vie, mais presque c'est intouchable. Et je me suis dit, j'avais toujours eu la sensation que les années tennis sont un temps qui ne compte pas. C'est-à-dire que, comme chaque année, je disais je prends une année sabbatique, je joue au tennis. Ah, je prends une autre année. Ah, oui, je joue encore au tennis, je verrai après parce que j'assumais pas d'être joueuse professionnelle. Next thing you know.
T'as pris 10 ans
next
à l'année sabbatique.
You know, tu vas avoir 30 ans en fait, ça compte. C'était pas pour du beurre là, les années tennis. C'était pas juste un loisir, etc. Tu vas pas revenir à HEC maintenant, ça compte. Et là, je me suis dit, ok, bon, bah voilà, j'ai envie de faire les autres choses. Et au final, ça m'intéressait donc moins de consacrer tout mon temps au tennis.
Ouais.
Donc ça s'est fait comme ça. Et je ressens encore le besoin de jouer parce que j'adore la compétition, j'adore ce sport. Et je suis incapable de couper le cordon aussi brutalement que ça en me disant j'arrête, je fais autre chose parce que ça me manque très vite. Donc je me suis dit je vais donner une autre place au tennis dans ma vie. Je vais continuer à m'entraîner pour garder un niveau décent parce que sinon j'ai l'impression de perdre une partie de mon identité. C'est, c'est si je suis pas entraînée, que je perds mes muscles et que je sens que je suis pas prête à jouer un match dans une semaine, je suis en panique. Alors que je compte pas jouer de match. Donc c'est vraiment juste pour me rassurer moi-même. Donc j'ai décidé de voilà de donner une autre place au tennis dans ma vie, d'arrêter de jouer le circuit à temps plein parce que au final je me sentais plus à ma place de faire ça tout le temps. J'avais envie, mais après j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de switcher. Donc j'ai accepté que c'était comme ça.
Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, et notamment cette histoire d'identité où en fait c'est très dur, je trouve, quand on a beaucoup donné pour que ce soit une entreprise, un domaine, une personne, en fait de se dire en fait là ça va plus être le cas, ou alors encore cette histoire de valeur quoi. En fait, si jamais il y a plus ça dans ma vie, en fait je n'ai plus de valeur parce que c'est ce qui m'a défini pendant tellement de temps. Et c'est vrai que moi non plus je sais pas comment faire pour réaliser que en fait on vaut qui on est parce qu'on est nous-mêmes et pas parce qu'on a fait et qu'on a accompli telle ou telle chose quoi. T'en as parlé à des sportifs qui ont arrêté il y a plus longtemps que toi?
Ouais, je pense que j'ai de la chance parce que il y a beaucoup de sportifs qui arrêtent et du jour au lendemain ils ont plus du tout envie de toucher la raquette. Déjà bon, alors tant mieux pour eux s'ils arrêtent et qu'ils en ont pas envie, mais moi c'est pas du tout ça. Donc je sais pas, c'est très différent pour chaque personne. Mais je sais qu'il y en a qui savent pas ce qu'ils veulent faire derrière, ou effectivement il faut qu'ils retrouvent une identité. Et le problème c'est que quand t'es depuis petit, tu t'es pas posé, alors, moi c'est différent parce que je me suis vraiment posé la question, c'était mon propre choix. Ok, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je veux faire, bon voilà. Mais quand depuis 7-8 ans t'es fort, ah tu gagnes, ah t'es premier en France, ah t'es pro, tu gagnes un tournoi international, mais tu te poses pas la question, t'es bon donc t'y vas et c'est tout, et tu te dis pas est-ce que je suis autre chose que ce joueur de tennis, donc tu te définis seulement comme ça. Et c'est vrai que pour ces personnages, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué.
Non, c'est sûr, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la reconversion dans le sport et qu'il y a des accompagnements maintenant, enfin de plus en plus en tout cas, parce que ça, que quand t'as une coupure brusque et que pour le coup tu n'as été que ça pendant tant d'années, notamment quand t'as été un super champion. En fait, je pense que la personne le vit vraiment différemment de l'intérieur que comment c'est perçu à l'extérieur. Tu vois, c'est Federer qui a arrêté, si je dis pas de bêtises, l'année dernière.
Non, il a pas arrêté. Il essaie de reprendre. Il a eu 41 ans là. Il a 41 ans cette année.
Ouais.
Il s'entraîne pour pouvoir revenir à la fin de l'année. Ça veut dire comme quoi les meilleurs.
Il y a des gens qui veulent
pas
arrêter. Non, parce que tu vois, s'il avait arrêté, moi je pensais qu'il avait arrêté. Et ben, en fait, dans nos esprits, ça reste Federer.
Oui.
En fait, le mec a marqué l'histoire. Ouais. C'est pas grave si t'arrêtes. Enfin, tu vois. Mais je pense que pour lui, il le vit d'une manière totalement différente parce que.
Ah ouais, t'imagines son quotidien, comment ça change. Au tennis, t'es 50, presque 50 semaines de l'année en mouvement, en voyage, avec un objectif qui se passe lundi prochain, chaque jour de ta vie. Et si là on t'enlève tout ça, bah déjà tu le ressens pendant les blessures déjà, donc tu te préhabitues.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as plus d'objectif pour lundi là, qu'est-ce que je fais?
Ouais, ça c'est très
bien. Je me lève pourquoi?
Ouais. Et t'as réussi du coup toi à te remettre des objectifs pendant cette période de transition, enfin même encore aujourd'hui, tu vois. J'imagine que le livre en a été un, le fait de commencer des émissions de télé, parce que c'est vrai que c'est pas la même adrénaline, c'est pas les mêmes récompenses, bon du coup c'est pas aussi les mêmes échecs, mais tu vois, comment t'as fait pour garder ce sel que tu pouvais avoir dans ta vie de compétition?
Justement, j'étais curieuse de voir si on pouvait retrouver quelque chose de similaire ailleurs. Ma réponse est non pour l'instant. Si je suis allée au spectacle de Gad Elmaleh la semaine dernière, je me dis là, par contre, c'est le summum quand même, un one man show comme ça.
Ouais.
Donc il y a d'autres métiers, évidemment.
C'est vrai.
Il y a d'autres métiers.
Surtout que t'as l'adoration du public, quoi.
Oui.
Et ça, je pense, c'est un truc quand t'es tout seul chez toi, tu rentres le soir et que t'as plus ce truc de, ce truc humain de j'ai été validé. Là, il y a plus personne qui m'aime. C'est très dur, quoi. Mmh. Alors que dans le tennis, tu l'as plus par les médias, les papiers. C'est Tsonga qui en parlait. Là, je suis allée à son dernier match, du coup, Roland Garros cette année. Et du coup, je crois que j'avais lu des interviews de lui. Et même lui, il le disait dans son speech à la fin. En fait, c'est très dur de dépendre de l'amour que les gens peuvent te donner, qui lui-même dépend de ton palmarès. Parce qu'en plus, tu représentes la France, quoi. Et donc, en fait, il disait qu'il vivait très mal ces périodes où un jour, tu pouvais être adulé de tous et l'autre être la honte. Et du coup, voilà, plus personne n'est là pour t'apporter l'amour que tu recherches, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est comme si tu, en faisant un petit peu de la psychologie de comptoir, que tu mettais ton bien-être interne et tu le bases sur l'adoration des gens.
Tu les mets dans
des autres, et c'est quelque chose que tu contrôles pas. Donc c'est sûr que ça te fait vaciller tout le temps.
Ouais, c'est sûr.
Mais oui, c'est...
T'as réussi à te remettre, du coup, toi, des objectifs
Alors, oui, parce que tout était nouveau, donc tout était excitant. tout est excitant encore, c'est encore nouveau. Après, oui, de temps en temps, enfin non, très régulièrement, j'ai besoin d'aller jouer au tennis. En fait, déjà, rien que faire du sport, c'est différent. J'ai besoin de faire un tournoi, j'ai besoin de compétition. Mais oui, le fait que tout soit nouveau et que j'ai des challenges à reprendre à zéro et que ça me fasse comme au tennis, finalement. Par exemple, l'acting, je suis arrivée dans un groupe d'acteurs professionnels qui travaillaient leur casting ou leur tournage. Et moi, je suis arrivée, je ne connaissais rien, j'avais jamais rien fait, j'avais jamais pris un cours de théâtre. Donc, au final, je retrouve ça parce que c'est de la performance du corps et de l'esprit dans le détail avec de la répétition et une sensation de se sentir nul ou fort selon ce que tu as fait. Donc j'ai l'impression de reprendre des sports à zéro, en fait, au final, quand je commence, parce que j'essaie d'être sur, j'ai le même fonctionnement du détail, etc. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu plus sain, on va dire, dans le sens où tu vas moins dans des extrêmes émotionnels. Donc ça, c'est positif quand même.
Ouais.
Après, est-ce que tu as les mêmes high? Non.
Ouais.
Mais c'est pas plus mal que ça reste comme ça au lieu d'être comme ça.
Ouais.
Je veux dire, pour ton bien-être personnel, au bout d'un moment, vivre toute sa vie comme ça, c'est chaud.
Bah, je sais qu'en plus, t'en as parlé librement dans pas mal de médias. Enfin, j'ai lu que tu avais fait face à la boulimie, aux troubles alimentaires, parce que la gestion du stress est très compliquée, je pense notamment quand on n'est pas accompagné ou pas assez. Est-ce que tu peux peut-être nous parler en effet de cette période et puis comment tu as réussi à apprendre à gérer le stress autrement? Parce que, en fait, malheureusement, que ce soit se faire mal ou avoir des troubles alimentaires ou avoir d'autres formes de troubles parce qu'on a un trop-plein de stress ou d'émotions, ça touche encore une fois le sport et d'autres domaines, quoi.
Bah, c'est vrai que justement, depuis que le tennis est mis de côté, je remarque. Mais vraiment, je remarque de façon passive, hein. C'est pas parce que j'ai fait un travail quelconque, ou peut-être que j'ai grandi, mais voilà, sans m'en rendre compte, mon alimentation est beaucoup plus stable. Beaucoup plus stable. Et je pense que c'est vraiment le tennis qui crée ça, parce que ça te met dans une condition émotionnelle tellement intense, tellement troublante, tu contrôles rien, t'as l'impression de tout faire pour que ça marche, mais au final, tu perds toutes les semaines, donc toutes les semaines, t'as une sensation d'être nul, et en plus, tu restes, tu regardes les autres jouer, donc les autres sont meilleurs que toi, enfin, c'est... Donc oui, je pense que déjà, être seul dans une chambre d'hôtel, même quand tu pars en vacances, t'as tendance à prendre la boîte de céréales, si tu t'ennuies, en fait, n'importe qui, pendant le confinement, les gens ont envie de manger, en fait. Donc déjà, faut se dire qu'au tennis, il y a beaucoup de temps mort où t'es dans une chambre d'hôtel, tout seul. Donc t'es dans la solitude, tu peux être en train de digérer une défaite, donc en fait c'est propice à ça, quoi.
Ouais.
Enfin, je veux dire, à part être au téléphone pendant des heures avec tes amis ou regarder des séries ou lire des livres, tu t'en prends à la bouffe. Et en plus de ça, il y a un rapport au corps qui est particulier parce que c'est du sport, parce qu'il faut quand même être fit, parce que t'es quand même dans des tenues... on est presque en maillot de bain parfois sur le court de tennis, donc les gens se regardent, tu es sur une scène... Les gens te regardent de haut en bas, c'est silencieux, ils peuvent regarder si tu dis un mot, ils entendent, si ta jupe est un peu trop courte, on le voit, si t'as pris 2 kilos, on le voit. Donc je pense qu'il y a un rapport au corps où oui, tu aussi, en fait, parce que t'as envie de... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je compensais tout simplement un manque affectif ou un vide par la bouffe. Derrière, tu te sens mal parce que tu te dis...
ça va empêcher
les performances.
Je vais
être grosse ou j'en sais rien. Ouais. Je vais être. Enfin voilà, mais après, c'est absurde. Hein. Évidemment que tu le sais que c'est absurde, mais tu t'auto-blâmes de choses où tu te dis, mais. En fait, je pense que c'est vraiment comment t'as pu perdre le contrôle de toi-même à ce point-là. T'es vraiment nul. Et donc, tu te blâmes d'avoir mangé. Mais c'est même pas forcément pour le physique. C'est vraiment, mais oh là là, mais qu'est-ce que t'es faible. Et donc, tu t'en veux. Et derrière, faire vomir, et
tu essaies de reprendre le contrôle.
Et c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vicieux comme ça.
C'est un cercle vicieux totalement, et je pense que, enfin, c'est peu de gens en parlent, et surtout, peu de gens ont des solutions à apporter sur comment sortir de ce cercle vicieux. Alors, bien sûr, il y a l'accompagnement psychologique, mais c'est vrai que parfois, je trouve qu'on peut pas apprendre aux gens à être plus indulgents avec eux-mêmes, quoi.
Alors moi j'ai trouvé un petit moyen qui marche un tout petit peu. Alors pour te raconter, moi je pense que ce que j'ai fait à un moment donné, c'est ce qu'une nutritionniste avait appelé, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, etc. J'ai regardé quand même sur internet à l'époque, une anorexie athlétique. C'est-à-dire que moi c'était associé au sport. C'est-à-dire qu'il fallait que j'arrête de manger du sucre, j'arrête de manger du gluten, que je mange des protéines le soir, que ceci, que cela. Et en fait je me suis mise à tout contrôler, donc comme une anorexique, mais version sport. C'est-à-dire que...
Moi je dirais de l'orthorexie athlétique. Ce que j'ai fait de l'orthorexie, en tout cas ce qu'on a appelé aujourd'hui l'orthorexie,
je sais pas ce que c'est.
Bah en fait c'est le fait de contrôler tout ce que tu manges et ton sport, mais sans te faire vomir. Donc après je sais pas, tu vois, mais en tout cas moi il y avait ce côté.
Moi j'avais moi, si jamais je sortais de ça, je pouvais aller me faire vomir. Pour... En fait, c'est presque des règles que tu t'es mises. Tu t'es dit, ok, donc là, je serai la personne parfaite si je mange comme ça, comme ça, comme ça. Si j'échoue, j'ai deux options. Soit je vais courir. Par exemple, j'ai mangé un chocolat. Je vais courir 20 minutes. Soit je me fais vomir. Mmh. Et en fait, c'est comme si tu te dis, ta journée sera parfaite si tu as rempli toutes ces cases. Mmh. Et si t'as pas rempli toutes ces cases, t'as raté. Et t'es nul. Et,
franchement, ça me rappelle des souvenirs. T'as ce besoin à tout prix de retrouver le contrôle, sinon ton cerveau n'est pas tranquille.
C'est ça. Et donc après, ça devient une règle. C'est-à-dire que tu peux pas manger de riz blanc le soir, parce que le soir, il n'y a pas de féculents. Et si tu manges des sushis, ça devient un drame, etc. Alors moi, comment ça a switché? C'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je ne dormais plus. Et j'ai compris que quand tu jeûnais, souvent, tu dormais pas. Enfin, ça avait une influence sur le sommeil. Et là, ça devenait tellement insupportable. Je m'entraînais beaucoup et je faisais des heures sup parce que j'allais courir en plus. Parce que si j'avais trop mangé, j'allais courir. Et là, je me suis dit à un moment donné, en fait, là, j'ai vraiment trop envie de dormir. Et c'est ça qui a switché pour moi. Ça a pris le dessus.
Ouais.
Et donc, il y a eu un jour où je me suis dit, ce soir, je vais manger du riz. C'est tellement... Ce soir, je vais manger du riz, j'ai envie de dormir. Et quand j'ai vu que ça a marché, ça m'a motivée.
Peut-être voir le fait que tu prennes pas de poids, en fait.
En fait, vraiment, je crois sincèrement que le fait que tu prennes du poids ou que tu prennes pas du poids, c'est vachement lié à si tu te dis que tu vas prendre du poids. Parce que je vois aujourd'hui, je mange 10 fois plus qu'avant, où je fais beaucoup plus d'écart et je grossis moins. Mais parce qu'en fait, si je prenais une cuillère en trop, je m'en blâmais tellement qu'au final, le poids, il était déjà pris d'avance. Il y a quand même vraiment une dimension psychologique.
Ouais, il y a une vraie dimension psychologique.
Et sinon, dans le truc que j'ai trouvé seulement, c'est-à-dire qu'il y a une pression psychologique que tu te mets en disant « Ok, là j'ai été nulle, j'ai foiré, à partir de demain c'est bon, ou à partir de lundi c'est bon. » Je pense que c'est un grand classique de se dire ça. Et moi, personnellement, dans toutes ces phases-là qui arrivaient jusqu'à la date butoir, je pétais un plomb. Parce que tu sais déjà que tu vas te priver d'eux, donc que tu vas être malheureuse. Donc tu te lances dans un truc où tu craques et tu fais une crise de boulimie parce que t'as tellement peur d'en être privé derrière que tu vas dans l'excès. Mais en fait, c'est que toi qui t'en es privé derrière. Donc en fait, c'est toi qui te mets dans cette situation de te forcer à la boulimie. Donc j'ai appris à contrôler mon cerveau en me disant... J'essaie de trouver un juste milieu tout le temps et je ne me mets plus de date butoir. Et parfois, c'est-à-dire que je me mentais moi-même, je me disais, t'as le droit, prends du chocolat, t'as le droit, ça fait rien, t'as le droit. Et en me donnant le droit, quelque part, j'en avais moins envie et donc c'est devenu plus stable. Je sais pas si ça a du sens, mais...
Mais ça a totalement du sens, hein. C'est la diabolisation de la nourriture. Et en fait, le fait de diaboliser la nourriture, déjà, ça te donne plus envie de la voir, mais ça te donne aussi après plus envie de défaire ce qui est considéré comme un craquage, ce qui au final, écouter ton corps. Enfin, tu vois, je tiens quand même à le dire, c'est vrai que pour les personnes qui nous écoutent et qui traversent peut-être des phases comme ça, il n'y a pas de bon ou mauvais aliment, en fait. Il y a de la nourriture, et c'est... Enfin, voilà, t'en as, oui, au plan nutritionnel, simple, qui t'apporte de quoi faire fonctionner ton corps, mais en fait, si jamais tu n'as pas à quoi aussi satisfaire ton esprit et ton bien-être, en fait, tu n'as aucun équilibre, et je pense qu'il faut à la fois savoir se détacher de la peur de prendre du poids, parce que ça arrive sur plusieurs mois, plusieurs années, et absolument pas quand on se fait plaisir et qu'on écoute son corps. Et aussi savoir se détacher de la volonté, enfin en tout cas de moi ce que j'avais, qui était l'alimentation parfaite. Moi c'était pas tellement le poids, c'était plus, j'avais peur que si je mangeais du sucre, tu sais, en fait, si tu suis des personnes qui parlent que l'alimentation saine, si jamais tu lis que des choses par rapport à ça, t'as l'impression que le jour où tu manges du sucre, t'es en train d'empoisonner ton corps. Moi j'avais vraiment ce sentiment-là, et en fait, c'est vrai que je pense que plus tu le fais, plus tu t'éloignes des personnes qui en parlent et des personnes toxiques de manière générale, plus tu arrives à te rendre compte qu'en fait, c'était de la peur. Et qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal, quoi.
Oui, parce que nous, en fait, le truc, c'est qu'avec mes copines du tennis, on parlait que de ça. À un moment donné, on ne parlait que de ça. Tout ce que je viens de te raconter, on se le disait ensemble. On voyageait avec nos petites balances portables et on se faisait tous les matins ensemble et on se disait, alors, toi, combien ce matin? Toi, combien ce matin? 57,2, 57,3. Et c'était un drame, en fait. Et je pense qu'à un moment donné, c'est passé par là aussi. Arrêtez d'en parler, déjà. Stop. Et je dirais un autre truc, au cas où ça aide quelqu'un d'autre, c'est donc, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, c'est l'histoire que tu te racontes. Et donc, si tu peux. Trick, ton cerveau aussi, enfin moi c'est ce que j'arrive à peu près à faire maintenant, c'est se dire ok, donc là soit je me le représente de façon négative, c'est-à-dire comment j'ai fait pour manger une mousse au chocolat, je suis nulle, et ben je me tourne à l'envers en me disant j'ai mangé qu'une mousse au chocolat alors tout le monde a bu du vin, en plus de la mousse au chocolat je suis vraiment une génie quoi, je suis vraiment super forte, et donc ouais. je me le dis comme ça maintenant, et comme ça je trouve le moyen d'être fière de moi même si j'ai mangé un truc. Et donc le rapport, et donc je le prends de façon plus légère, et je suis sûre en plus que tu grossis moins.
Mais oui, non, mais t'as raison. Et puis, je le rappelle quand même, ce n'est pas grave de grossir. Parce qu'on a tendance à diaboliser la prise de poids, alors que le poids de forme est différent pour tout le monde. Mais je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est triste d'en arriver à là, quoi, de se dire. Enfin, en fait, on reste un peu dans le côté j'aurais pu faire pire. Et moi aussi, je me disais un peu ça. Je me disais, ok, j'ai pris du fondant, mais j'ai, en effet, j'ai pas bu ça, ou j'ai pas, je me suis pas resservi, ou. Mais je pense. Et en plus, enfin, je crois que quand même, le plus. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment me nourrir de contenu différent. Tu vois, c'est pas juste me nourrir de l'extérieur, mais c'est me nourrir de l'intérieur. Et en fait, je pense que notre inconscient, on joue quand même un énorme rôle, si ce n'est le grand rôle, dans ces troubles. Et donc, déjà, parler de ces problèmes, parce que c'est souvent lié à des problèmes, aide énormément. Donc, voir une psychologue ou un psychologue. Mais aussi, changer son propre état d'esprit, son propre rapport à soi-même. Et pour moi, ça passe par... Enfin, tu vois, j'ai lu Beauté fatale de Mona Chollet, qui m'a beaucoup aidée, où tu vois des parcours et du coup, t'as du recul, parce que du coup, c'est pas ton histoire, celle de quelqu'un d'autre, mais tu te reconnais dedans. Tu peux te rendre compte des pièges dans lesquels t'es tombé. Et aussi, donc, tu déconstruis un peu les injonctions de la société. J'en parle aussi dans mon livre. Mais aussi, juste te dire, ok, j'ai su des personnes qui vont pas parler de bouffe tout le temps, qui vont pas parler de sport tout le temps. Et en fait, je vais m'accomplir ailleurs, quoi.
J'ai aussi arrêté de suivre toutes les mannequins sur Instagram.
Ah, mais ça.
Mais vraiment.
C'est genre un des premiers conseils, hein.
Mais c'est en même temps que j'ai arrêté d'en parler, j'ai vraiment arrêté de suivre les mannequins sur Instagram parce que c'était pas possible.
Ouais, bah pareil, sur ton inconscient, en fait, ça joue tous les jours, tu les vois, tu dis pourquoi je suis pas comme elle, et tu dis bah du coup il faut que je mange moins ou il faut que je fasse plus de sport. Et suive moi des personnes qui parlent beaucoup plus d'acceptation de soi, et vraiment, tu vois, pas juste le montrer, mais qui en parlent, qui parlent de la théorie derrière et qui donnent des vrais conseils, ça fait son petit bout de chemin, progressivement, ouais. Tu vois.
Je pense aussi si t'es entouré des bonnes personnes, si dans ton couple la personne aussi est
carrément
te trouve belle comme ça, oui. Et vraiment te le fait comprendre en fait qu'on s'en fiche et te le fait rentrer dans le crâne, ça aide vachement.
Non mais c'est franchement il faut se détacher des personnes toxiques, que ce soit sur le net ou dans la vraie vie. Et je sais que Maya, si vous nous entendez et que vous êtes un copain toxique qui vous fait comprendre que vous avez pris du poids et que du coup vous êtes plus désirable, juste quittez-le en fait. C'est-à-dire
ouais,
que
vraiment.
Quelqu'un qui t'aime vraiment. Non mais vraiment. C'est pas très grave. Si, c'est grave en fait.
Ouais, c'est vraiment grave, je suis d'accord.
La personne, tu vois, ça peut être une passade, ça peut être plein de choses qui font qu'en fait la personne va pas s'arrêter à ça, quoi. Et je le dis parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut ne pas s'en rendre compte, quoi. Et se dire que c'est nous le problème, c'est nous qui avons pris du poids, c'est la personne n'est pas tombée amoureuse de nous avec le même physique, donc en fait c'est normal qu'elle ne nous aime plus comme ça. Non.
C'est horrible.
Ouais, ouais. C'est malheureusement bien trop fréquent.
Mais je conclurai juste en disant que c'est quand même très fragile. Qu'une fois, je sais pas pour toi, mais que tu as touché à ça, je sens que c'est fragile.
C'est vrai, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Et en fait, pour moi, ça dépend beaucoup de mes périodes de vie. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes de vie où je l'avais vraiment dépassé. Parce que j'étais un peu dans l'autre extrême, en fait, de mais en fait, manger ce que vous voulez. En fait, la bouffe, c'est trop bon et j'adore la bouffe. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré la bouffe. Donc, en fait, il y avait une vraie privation de ma part quand voilà, j'avais de l'appétit et tout. Donc, quand j'étais dans la phase de restriction. Et en fait, ça peut revenir, moi, par rapport à d'autres sujets. C'est généralement pas le poids, mais c'est plus l'impact de la nourriture sur ta santé. Donc normalement, tu vois, j'ai arrêté la pilule. Et du coup, direct, en fait, dans la naturopathie, on te dit... Bon, en fait, tels aliments, ça va empirer tes hormones, ça va empirer ta peau. Et du coup, tu te remets à contrôler vachement, quoi.
Ouais.
Donc, et puis, je pense que ça peut être dans des phases de rupture. Enfin, tu vois.
Bien sûr, c'est ça.
Comme tu dis, c'est fragile. Mais moi, il y a des phases où vraiment, c'est pas un sujet du tout, tu vois.
Ouais, moi aussi, il y a des phases où c'est pas un sujet. Mais je sens qu'il y a des moments où, quand tu deviens un peu fragile, comme tu dis, ça peut revenir au galop. Et là, il faut se rappeler comment t'as fait très vite.
Ouais.
Parce que ça...
Ouais.
Ça peut
et peut-être en parler à une personne de confiance à qui vous pouvez dire bah voilà, là, je sens que je retombe dans mes travers. Et je pense qu'il y a, moi je sais que certaines paroles peuvent vraiment m'aider à justement sortir de ton cercle vicieux mental et te remettre un peu sur selle, quoi. Quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, avec bienveillance.
Et personnellement, je ne me lance plus jamais, et plus jamais, dans un régime.
Ouais.
Dans un régime où c'est écrit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, et à l'avance. C'est ok, je vais faire un peu plus d'attention, mais voilà, hein, ça ira pas plus loin que ça, si je me dis ça. Et puis c'est ok de se dire ça quand t'as mal mangé, pendant les fêtes, t'as envie de te sentir mieux, bon bah voilà,
chacun fait ce qu'il veut
pour toi.
Hein.
Mais alors, le régime, c'est pas possible. Moi, je sais que justement, quand j'étais assez fragile, si je retombe dans le calcul, ne serait-ce qu'une journée, je vais devenir perfectionniste, etc., et je peux très vite retomber là-dedans.
Mais en fait, ce dont on parle, c'est ça, le underlying factor, voilà, je suis désolée, parfois je fais des anglicismes, ça sonne mieux. Le facteur sous-jacent, c'est le perfectionnisme.
Ouais.
Tu vois, c'est que ça touche des personnes perfectionnistes.
Ouais.
Et en fait, je trouve que c'est très dur. On n'est pas accompagné, parce qu'il n'y a pas de règle pour tout le monde, mais tu vois, en gros, tu as un symptôme, le trouble alimentaire. Ce qui est généralement en dessous, c'est soit un problème de famille, etc., soit genre une caractéristique donc, qui est souvent le perfectionnisme. Mais souvent, je suis en train de découvrir que le perfectionnisme vient aussi de quelque part. Et en fait, tant que t'as pas réglé ce premier truc-là, ben, t'auras toujours les deux derrière ou les trois derrière qui seront présents dans ta vie, quoi.
Ouais.
Et c'est très dur de remonter à la bottom line des choses, quoi.
Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire, parce que pour ma part, je pense que ça arrivait, ce perfectionnisme-là arrivait dans des moments où justement tu souffres beaucoup de l'intérieur, et donc tu veux que ta coquille soit parfaite.
Ouais.
Pour surtout que ça se voit pas.
C'est vrai. C'est vrai, non, mais j'aime bien, moi, aller dans le fond des choses, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens, et donc, ouais, toi, tu penses que c'est... En fait, tu l'auras toujours dans ces périodes de vie plus difficiles à vivre ?
Je sais pas, mais je pense quand même qu'il faut se rappeler... Enfin, je sais que j'ai réussi à l'apprivoiser, mais je pense pas que ce soit parti.
Ouais.
Je pense que je l'apprivoiserai toujours, j'aurai toujours les clés pour l'apprivoiser, parce que ça partira jamais. Mais est-ce qu'il y aura pas un moment où il faut que je me rappelle mes règles pour l'apprivoiser ? Je pense que oui, toujours.
Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est très difficile. Je le vis aussi, en effet. En fait, moi, c'est plus quand tout va bien. Tout va bien. Alors, c'est très profond hein, comme phrase, mais genre, j'ai l'impression que tous mes soucis d'ordre, enfin voilà, de comportement ou de sont plus là. Genre, je suis guérie, tu vois. Et en fait, dès que j'ai des phases où il y a un truc dans ma vie qui va moins bien, c'est comme si tout refaisait surface. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai pas du tout progressé. Tu vois, où est le progrès, quoi? Et ça, je trouve que c'est difficile. Et ça me fait dire qu'en fait, j'ai pas traité justement les trucs de base. Et je sais pas quels ils sont.
Non, je pense qu'il y a du progrès parce que tu le gères pas de la même façon quand ça revient, j'imagine.
Ça, franchement, ouais, ça dépend quoi. Ça dépend quoi. Il y a des trucs vraiment, je retombe dedans, les deux pieds dans le plat. Ah ouais. Alors que souvent, on dit en effet, c'est moins pire la deuxième fois, la troisième fois. Et en fait, non. Et alors, je sais pas ce que ça vaut, mais il y a un livre que j'ai lu. Alors que je crois que j'en ai déjà parlé, j'avais beaucoup aimé, maintenant je l'aime moins parce que je me dis en fait il m'a pas aidé. Mais c'est... Attends, c'est quoi déjà le livre? Je l'ai juste là, c'est le livre de Louise Hay, je le mettrai dans les notes. You Can Heal Your Life. Je n'ai pas le titre en français, mais il existe en français aussi. Et en gros, elle a coaché des gens toute sa vie. Tu vois, ça a vraiment été son plan de bataille. Elle a une vie horrible en plus. Donc, tu vois, elle est vraiment un peu la preuve de ce qu'elle dit. Et donc, elle te dit que la bottom line de tout le monde, c'est « you are not enough ». Tu ne te sens pas assez. Tu ne te sens pas comme ça. C'est-à-dire que tu aies eu un problème de couple, de finances, de maladie, en fait, la bottom line, c'est toujours « je ne me sens pas assez bien ». « Je ne m'aime pas assez ». Et tu vois, au début, je dis là « non, mais c'est trop vrai et tout ». Et en fait, je pense en vrai que c'est vrai. Mais je pense que c'est tellement difficile d'arriver au point où tu te sens assez que du coup, je suis là, genre, franchement, faites un autre livre. Vous donnez quand même un peu les méthodes. Parce qu'elle parle beaucoup des affirmations. Donc, qui, je pense, est une forme, est un outil, mais en fait, ne suffit pas. Genre, et je trouve qu'il y a un truc très, très culpabilisant. Enfin, tu vois, après avoir lu le livre et essayer d'appliquer les méthodes, où tu vas faire tes affirmations tous les matins, tu vas te répéter dans la glace des trucs et tout. En fait, tu ne vois pas de résultats. Et donc, en fait, tu te dis encore plus que tu es nul. Ouais,
puisque ça marche pour les autres, puisque c'est écrit dans un livre et pour moi, ça marche pas.
Non, mais c'est ça, c'est que tu te remets encore plus en question. Et donc, bref, je pense
ça
que c'est vrai.
Ça serait si tu
mais...
pouvais régler des problèmes quand même profonds, comme tu l'as dit, enfin, parce que ça vient d'une cause profonde.
Mais il y a des exemples, tu vois. Donc, en fait, ça te fait dire ouais, que ça marche.
Bah, tant mieux. Hein. Mais bon, après, donc, s'il y avait une recette magique qui pouvait marcher pour tout le monde, ce serait trop simple.
C'est sûr, c'est sûr. Et on l'aurait donné depuis bien longtemps. Mais donc, faites attention aux gourous, en effet, qui peuvent te donner l'impression que, genre, c'est ça le remède à tous tes maux, quoi.
Ouais.
Écoute, il y a d'autres sujets que je vais aborder avec toi avant de terminer, parce que ça fait déjà une heure et je n'ai pas vu le temps passer. Heureusement que Clément est là pour me le dire.
Ce que je me disais quand on parlait, je me disais, on va faire tout le podcast là-dessus, on est parti, bon, c'est pas grave, elle recoupera.
Ouais, non, mais je pense que je comprends même pas, parce que j'aime bien quand on approfondit des sujets, c'est des trucs dont on parle pas dans tous les épisodes, tu vois, donc ça aidera, j'espère, beaucoup de gens.
Et c'est la première fois que j'ai fait beaucoup d'interviews sur mon livre, mais c'est la première fois que j'en parle comme ça.
Bah écoute, je suis ravie, merci de ta sincérité. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des rêves que tu as dans ta, justement, cette bucket list où quand t'as arrêté, tu t'es dit, ok, il y a ça que j'ai envie d'accomplir, ça que j'ai envie d'accomplir.
Alors, il y avait écrire un livre, donc je m'y suis mise tout de suite. Il y avait toucher à, parce que c'était très vague et j'ai pas d'objectif de résultat, pour le coup, pour ne me sentir pas assez, à l'acting, à la comédie, au jeu de la comédie. Donc, je me suis inscrite à ce cours dont je parlais tout à l'heure. Donc, presque en y étant, j'ai déjà accompli ce que je voulais.
Ouais.
Mais évidemment, j'aimerais bien aller plus loin et essayer de jouer dans un film un jour. On verra si ça marche ou pas. Et il y avait de dessiner des vêtements, donc je l'ai fait avec le coq sportif, puisque j'ai été égérie, à la fois je pouvais dessiner mes tenues de tennis, donc ça c'était hyper cool.
Ah ouais.
Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué pendant un temps, au début quand j'ai arrêté le tennis c'était vraiment quelque chose que j'avais mis aussi en priorité, mais petit à petit ça m'intéresse moins, je pense, parce que je suis de plus en plus sensibilisée à l'environnement, etc. Et je me dis, pourquoi fabriquer encore plus de vêtements alors qu'on avait surtout essayé d'en acheter moins. Ouais. Donc voilà, ma mentalité change par rapport à ça. Mais voilà, après, j'ai beaucoup aimé le process de l'écriture. J'ai vraiment adoré cet état. Donc j'espère y retourner un jour. Pourquoi, dans quelle mesure et dans quel contexte, j'en sais rien. Mais j'espère un jour, évidemment, ce sera pas, je vais pas le forcer. Il faudra que ça vienne de... d'accoucher un
ça
truc.
Ça se ressent, ouais.
Que j'accoucherai dans d'autres trucs.
Toi aussi, je crois que t'as écrit à la main, non?
Ouais, j'ai écrit à la main la première partie.
Ok.
Ouais. Après, la femme qui a écrit ma préface, ma psychologue, Jeanne Chiopachin, m'a dit « Mais écris quand même sur l'ordinateur, tu verras, tu pourras pianoter mieux et bouger tes phrases et c'est quand même plus pratique. » Et c'est vrai que je suis assez d'accord, quand tu testes ta musicalité, à un moment donné, t'es quand même un peu plus souple. Mais bon, j'adore écrire à la main aussi. Donc,
moi, j'ai toutes mes feuilles là-bas. Pour le coup, je suis d'accord, c'est plus simple. Mais en fait, il n'y a pas de bonne méthode. C'est-à-dire que moi, je préfère au contraire avoir mes feuilles. Et en fait, moi, j'avais fait ça comme une disserte, tu vois, où j'avais toutes mes feuilles de brouillon. Et donc, en fait, quand t'écris ta partie, tu peux te dire, ah ok, ça, j'écris ça là, ça, j'écris ça là, ça, j'écris ça là. Alors que sur un ordi, tu dois scroller, retrouver la bonne page, puis remonter pour... Horrible.
Moi, j'ai écrit comme une rédaction, en fait.
Ouais.
Donc, j'ai tout rédigé tout de suite.
Ah ouais.
J'écrivais, ouais.
T'as pas fait de brouillon, plan.
Non, j'ai écrit comme ça sortait. Alors, je me
donc
suis
un
fait
un journal intime, quoi.
Ouais, je me suis fait un peu un plan chronologique juste pour me rappeler des choses parce que j'ai dû étudier, genre, en quelle année j'ai joué à tel tournoi, etc. Ça fallait que je recherche. Ou quel événement avait lieu en quelle année, ou relire des journaux intimes pour voir en quelle classe c'était arrivé, etc. Pour savoir dans quel ordre le remettre. Mais sinon, oui, j'ai tout écrit comme ça, donc c'était compliqué. Il fallait après, je gommais des bouts de phrases. En fait, je voulais rendre une copie parfaite, comme j'étais à l'école, j'étais hyper scolaire.
Le perfectionnisme est de retour.
Donc je gommais, je réécrivais, parfois je faisais une feuille volante, tu sais, comme quand vous allez école, enfin voilà, donc c'est... Donc à bout d'un moment, c'était un peu contraignant. Donc oui, pour reprendre cette bucket list, donc, je dirais que là, aujourd'hui, c'est vraiment plus l'acting qui me motive.
Est-ce que ça m'intéresse de savoir, parce que je trouve que parfois, on fantasme des rêves, alors qu'au fond, c'est pas vraiment ce qui nous nourrit. Est-ce que dans là, ce que t'as pu réaliser, ce qui était sur ta liste, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait des rêves que t'avais plus parce que la société te les a mis dans la tête, ou parce que, tu vois, l'idée de réaliser ce rêve te faisait kiffer, mais qu'en soi... Le processus, qui est pour moi ce sur quoi on devrait vraiment se fixer quand on essaie d'atteindre son rêve, en tout cas sur lequel se baser l'appréciation qu'on en a, et ben en fait voilà, c'était pas quelque chose qui t'a vraiment fait kiffer ou autant que t'aurais aimé que ce le soit.
Non, j'ai eu de la chance, j'ai vraiment pas été déçue. Okay. C'est vraiment ce que j'avais imaginé et c'est exactement ça, c'est que j'aime le processus.
Ouais. Chaque et processus de ses rêves, bah, trop cool.
J'aime le processus et sinon j'aurais déjà craqué parce que c'est
trucs assez longs. Hein.
Ouais, c'est long, c'est pire que le tennis. Il se passe rien, t'attends, t'es dans l'attente tout le temps, t'as pas de casting. Enfin, tout le monde m'a prévenu que ça allait être comme ça. Et je me suis dit, c'est pas grave parce que j'adore le processus. Donc en fait, rien que l'idée d'aller jouer, enfin même pour rigoler à l'atelier, enfin c'est pas pour rigoler, mais pour travailler. Donc l'entraînement, je vais appeler comme ça, comme au tennis, ça me plaît. Donc non, j'ai de la chance.
C'est un des meilleurs moyens de savoir si ce qu'on fait nous nourrit vraiment. C'est effet, si t'es pas juste défini par le résultat, quoi.
Non, ouais. Alors, je me sens pas du tout tombée dans ce piège, donc ça, c'est cool. Et de toute façon, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le tennis, parce qu'à un moment donné, si t'es que sur le résultat, tu peux ne pas rien faire, c'est impossible.
Ouais.
Et je sais plus ce que je voulais dire. Ça me reviendra.
Ouais, par rapport à l'acting, désolée.
Non, c'est pas grave.
Mais c'est ce qui fait la beauté du podcast. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, je crois qu'on l'a un peu parlé, mais comment tu progresses? J'aime bien poser cette question parce que pour moi, la vie est progrès et l'humain est progrès. Alors pas forcément, tu vois, devenir le meilleur, mais en tout cas juste...
en termes de développement personnel
En termes de développement personnel et en termes de comment tu peux être mieux avec toi-même chaque jour, quoi.
Alors, c'est marrant parce que quand tu disais ça, je pensais pas que t'allais dire avec moi-même. Je pensais que t'allais dire avec les autres.
Ah ouais, mais parle de ce qui toi te parle. Hein.
Donc moi, c'est vrai que quand t'as commencé ta phrase, j'étais là, oui, alors comment je fais pour être meilleur avec les autres? En réfléchissant, je sais pas. C'est vraiment, tu conduis, tu fais quelque chose, tu réfléchis, tu refais des liens avec comment t'as réagi par le passé, comment t'analyses les choses aujourd'hui, ce que t'as observé, ce que t'as compris. Enfin, de la psychologie un petit peu que j'essaie de comprendre pour essayer de se remettre en question et essayer de se dire, ok, maintenant je vais plus réagir comme ça. Voilà.
Tu fais une auto-analyse un peu de tes comportements.
Ouais, c'est ça.
Intéressant. Ouais, non, mais au moins ça te permet d'identifier peut-être des schémas.
Ouais. Mais en s'améliorant avec les autres, on s'améliore soi-même.
C'est sûr. Et vice-versa. Oui. Quand on s'améliore soi-même, je pense qu'on s'améliore avec les autres.
Oui.
Donc, hyper intéressant. Il y a un sujet que j'avais quand même envie d'aborder aussi, parce que quand j'ai fait des petites recherches, j'ai vu que quand même t'avais des médias qui disaient la compagne, Tony Parker, etc. Donc moi, je parle beaucoup de féminisme et d'indépendance. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange et comment peut-être t'apprends à gérer, tu vois, ce. qualificatif, ce statut, ouais, d'être femme d'eux, entre guillemets, tu vois.
Bah franchement, c'est marrant parce que je pense que si tu as cette faille d'avoir peur d'être la femme d'eux, tu vas en souffrir. Mais comme je le vois pas du tout comme ça, ouais. Ça me fait rien.
Comme t'es à l'aise avec toi-même, en fait, tu t'en fous de...
Mais vraiment, c'est un truc, je n'y pense pas. Ça ne me fait rien du tout.
Putain, moi j'aurais envie d'écrire aux médias et leur dire ce n'est pas la compagne de Johnny Parker, c'est Alizée Lim. Enfin, tu sais, il y a un côté, je trouve.
Ouais,
quand
de
même,
temps en temps, je peux le dire.
Ton existence,
je peux le
vois.
Dire comme ça pour faire moins impertinente. Mais à vrai dire, ça me touche pas.
Ouais.
Tant mieux.
Bah, c'est clair, non, mais c'est ce que je me disais.
Pas.
Hein,
en fait, je pense que j'ai tellement été dans un sport individuel où c'est toi et ta gueule sur le court, etc., que d'un coup, me sentir réduite à une moitié de quelqu'un ou un petit bout de quelqu'un, c'est impossible. Ouais. Enfin, je sais pas, impossible, ça devrait être possible.
T'existes
donc
déjà
c'est
pour toi-même, en fait.
Mais oui, non, ça me... Non, vraiment pas.
Ok, bon bah tant mieux, mais si vous êtes un média, n'hésitez pas à donner son nom, quoi. Le message passe. écoute, on va passer aux petites questions de la fin. J'ai juste envie de te demander déjà, est-ce qu'il y a des routines que tu as gardées de ton passé, ou en tout cas de tes années de sportif de haut niveau? Au contraire, que tu as abandonné?
Alors, des routines concrètes, non, mais je pense que c'est infiltré partout dans ma vie. Déjà, l'alimentation, ne pas boire d'alcool, etc., ou très peu. L'obsession de se sentir bien dans son corps. Alors, ça, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vraiment différent. C'est vraiment pour me sentir active, avoir possession de mon intellect. Par exemple, j'ai n'importe quoi, j'ai une interview à faire le lendemain. Je peux pas boire un verre d'alcool la veille. C'est-à-dire que je suis dans le mode
aussi,
performance. Je me dis, bon, bah là, il faut que je sois bien. Au début, parfois, j'allais donc à l'acting. Donc, l'acting, quand je dis ça, c'est un atelier de 3-4 heures sur le matin, donc comme un entraînement où on est plusieurs et on travaille ensemble. Et il y a toujours à la fin où tu te représentes devant les autres. Donc, tu as préparé une scène, donc c'est quand même un peu stressant. Et je réfléchis à mon alimentation. C'est-à-dire que j'ai peur d'être en hypoglycémie à ce moment-là et je vais être moins performante, etc. Donc je pense que j'ai des biais de ma vie de sportive de niveau qui arrivent par rapport à l'alimentation, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, faut pas que tu manques de quelque chose, il faut que tu aies les bons nutriments à l'intérieur de toi pour te sentir forte.
Ouais.
Donc voilà, c'est plus prendre de la force. Je dirais qu'il y a ça. Et après, c'est vraiment une rigueur de vie générale, je pense, être organisée. Et puis là, par exemple, je me suis vraiment mise à la méditation de pleine conscience et je m'y suis mise depuis le mois de février et je le fais tous les jours. Et ça me fait comme à l'époque avec ma mentalité de tennis.
Ouais, c'est-à-dire
c'est-à-dire qu'il faut que je le fasse pour me sentir bien. Enfin, je m'astreins à quelque chose. Voilà, après, pas de manière maladive, hein, bien sûr.
Mais tu ressens les bénéfices, donc tu continues, quoi. C'est ça qui est
exactement,
ça.
Exactement. Ouais.
Est-ce que tu peux...
Il y aurait sûrement plein de choses auxquelles je vais penser dès que je vais partir d'ici, etc. Mais là, c'est ce qui me vient tout de suite.
C'est déjà très bien, t'inquiète pas. Si jamais tu pouvais recommander ou offrir un livre aux personnes qui nous écoutent, ce serait lequel?
Ah, bah alors là, tu me poses cette question. J'ai lu un livre qui m'a vraiment transcendé récemment, un roman qui s'appelle Feu de Maria Porchet. Après, je sais que c'est très subjectif et ça ne plaira pas à tout le monde. Forcément, les romans, c'est toujours comme ça, mais... je peux pas ne pas le dire, parce que j'en est au point où je fais toujours des screenshots de pages de livres que j'aime, parce que ça me fait sentir bien, ça me donne des émotions quand je lis une page, donc dans mon téléphone, pour les avoir apportés n'importe quand. J'ai jamais pris autant de screenshots de ce livre-là, et vraiment, parfois, j'ai une petite pause dans la journée, ça me fait du bien, je lis juste les pages de ce livre.
Donc, trop cool.
Voilà, c'est vraiment une histoire d'amour.
Ouais, bah écoute, je le mettrai dans les notes du podcast.
Et peut-être un deuxième, parce que moi je suis très romance et s'adapter.
D'accord.
C'est l'histoire d'une fratrie avec un enfant handicapé dans la fratrie.
Ok, génial, je mettrai les deux dans les notes du podcast. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait?
Ouf, c'est trop dur, je déteste les questions ouvertes comme ça.
C'est plus marrant que les questions fermées. T'imagines le podcast? Oui, non. Oui, non.
Ouf. Bah, moi, les podcasts que j'adore écouter, c'est les écrivains, parce que j'écris les livres et après, j'écris les livres. Ouh là là, je lis leurs livres et après, je veux tout savoir.
Ouais.
Mais j'ai déjà écouté tous leurs podcasts, donc il faudrait quelqu'un d'autre.
T'as écouté Joël Dicker?
Non, j'ai pas écouté.
Ok, j'ai failli avoir Joël Dicker, il est parti en Suisse au moment où on devait l'avoir, donc ce n'est que partie remise. Mais,
ça m'énerve, parce que je suis sûre que je vais penser à quelqu'un après, et ça va me frustrer.
Bah, ça peut être cette autrice dont t'as parlé, Maria Porchet, si j'ai bien retenu.
Oui, mais j'ai déjà écouté des podcasts d'elle,
d'accord.
Donc
il faudrait quelque chose de nouveau. Tu nous enverras ta recours.
Voilà, c'est ça.
Je la mettrai dans les notes aussi. Et du coup, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Belle question ouverte.
Ouf, là 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 là, c'est vrai, tu veux pas que je dorme ce soir.
On peut prendre une pause et tu réfléchis à la réponse. Hein.
Non, maintenant il faut que ce soit spontané. Prendre le pouvoir de sa vie, ben, ça rejoint beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui. Hein. J'ai envie de dire, se libérer de toutes les personnes toxiques, arriver à trouver une forme de liberté dans ce que tu aimes. Enfin, c'est trop basique. J'ai l'impression de dire des trucs tellement basiques.
Non,
c'est
mais
évident,
vas-y,
mais
vas-y.
Mais oui, enfin, c'est-à-dire que s'autoriser à faire les choses dont on a toujours rêvé. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de barrière. Faire sauter toutes les barrières, les croyances limitantes. S'entourer des personnes qui nous font du bien et ne jamais culpabiliser ou se dire qu'on est obligé d'avoir ces personnes dans sa vie parce que c'est comme ça, mais vraiment par choix et parce qu'on a... Vraiment, moi, je ne supporte pas qu'on m'impose dans mon entourage des personnes qui me donnent des émotions négatives. Donc voilà, un mix de tout ça.
Ok. Bah écoute, j'aime beaucoup et c'est que des bons conseils à appliquer. Donc merci beaucoup, Alizée.
Merci
c'est
à toi.
Hyper cool d'échanger avec toi. Pour les personnes qui nous suivent et qui veulent en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige?
Bon, je ne sais pas, j'aime pas faire trop de. Bah, je suis sur tous les réseaux sociaux. Je suis plus sur Insta que sur le reste. Après.
Ouais, mais non, mais je le mets comme ça, voilà. Chacun pourra faire comme il veut, mais moi,
voilà,
ce sera dans les notes.
Sur Instagram, alors.
À très vite.
À très vite, salut, bye. Merci.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais, et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en le partageant en story ou en post sur Instagram, en nous taguant @alizelim et @mybetterself pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.